France Culture.
Le long de l'avenue de Champagne à Épernay, au cœur de Reims, dans les vignobles d'Auvilliers ou au fond des Crayères à 40 mètres sous terre, l'inquiétude règne dès l'annonce de l'élection de Donald Trump en novembre 2024. La Champagne a su qu'elle allait être au premier rang d'une guerre commerciale menée tambour battant par le nouveau président des États-Unis. Et cela n'a pas manqué, surtaxe de 25%, puis menace de l'imposition d'un taux de 200% avant de revenir à 10%. Tout cela s'est succédé, entraînant incertitude et stratégie pour y faire face. Et les chiffres sont déjà là. En 2024, 271 millions de bouteilles de champagne ont été vendues à travers le monde. C'est 9,2% de moins que l'année précédente. Alors il n'y a évidemment pas que le champagne de concerné. Les vins dits tranquilles, les spiritueux sont également sous tension, à tel point que la situation est qualifiée de catastrophique pour certaines régions comme celle de Cognac. Mais le champagne a cette caractéristique d'être à la fois un produit emblématique, à la fois d'un savoir-faire français, agricole et viticole, mais aussi, voire surtout, d'un savoir-faire à l'export. Si le champagne représente 10% du total des exportations françaises en volume, il représente surtout 35% du total des exportations en valeur. Fort de son ancrage géographique, de la façon aussi dont son marché s'est structuré au fil des années autour de gros pôles que sont les maisons de champagne, de son appellation d'origine contrôlée, c'est toute une région qui a donné son nom à un produit qui semblait avoir pris conscience des dangers auxquels l'exposait son exposition internationale et qui avait agi en conséquence en tentant de se procurer des filets de sécurité pour rester compétitif. Mais ces armes sont-elles suffisantes pour affronter une crise peut-être plus structurelle qu'elle n'en a l'air ? L'insertion dans la mondialisation, force de frappe du champagne, était-elle en train de se retourner contre elle ? Est-ce tout un modèle économique qui est en train de basculer et qui va en payer le prix ? Ce sont toutes ces questions que nous allons nous poser aujourd'hui en arpentant le territoire champenois dans cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Anthony Thomasson. Et deux invités vont nous servir de guide aujourd'hui. David Ménival, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la filière Champagne au Crédit Agricole Nord-Est et vous êtes avec nous depuis le studio d'ici à Reims grâce à Dimitri Gola qui assure ce duplex et je l'en remercie. Également avec nous et à distance, François Le Gouy, vous êtes agrégé de géographie, professeur émérite à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et co-directeur avec Sylvaine Boulanger d'un atlas de la vigne et du vin, un nouveau défi de la mondialisation dont une mise à jour est actuellement en cours de préparation. Bonjour à vous et soyez le bienvenu.
Bonjour.
Depuis le début du mois de novembre, on s'attend à tout, d'une certaine façon.
Nicolas Ozanam, directeur de la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux, le 15 mars 2025.
Et les cinq semaines qui viennent de s'écouler nous montrent que finalement nos attentes étaient peut-être en dessous de la vérité, d'une certaine façon. Clairement, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était l'annonce par M. Trump d'un niveau de taxe de 200%. On a bien vu dans les semaines écoulées qu'on parlait de 25%, de 10%, etc. Des choses plus, entre guillemets, classiques. Mais 200%, c'est un mur. Pour établir un rapport de force, il faut prendre les bons leviers. Et concrètement, quand vous avez un secteur comme celui des vins et spiritueux qui exporte 8 milliards d'euros d'un côté pour importer 1 milliard et demi d'euros en provenance des États-Unis, vous comprenez très vite que ce n'est pas le bon levier. On est plus dépendant de ce commerce que ne le sont les États-Unis.
Quand on veut s'attaquer à un symbole de ce qui représente la France...
Joël Bouey, vigneron et président des vignerons coopérateurs de France, le 11 avril 2025.
Ou plus largement l'Europe, effectivement, quand on est vu des États-Unis ou même de Chine... Le vin, c'est quelque chose, les spiritueux représentent quelque chose, effectivement, dans l'imaginaire collectif. Et c'est un symbole de l'image et de la représentation française ou européenne, effectivement.
François Le Gouy, une question pour commencer. Pourquoi les vins et spiritueux français sont-ils au premier rang de cette guerre commerciale entamée par Donald Trump ? Est-ce qu'il s'agit d'un symbole, comme on l'entendait là, ou y a-t-il une forme de rationalité économique de la part des États-Unis à attaquer par cette filière précisément ? Est-ce que c'est effectivement alors un mauvais levier pour nous, membres de l'Union européenne, ou un bon levier du coup pour les États-Unis, comme le disait Nicolas Ozanam ? Que cherche finalement à atteindre Donald Trump ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la notion de symbole ou vraiment de la santé d'une filière ? filière dans son intégralité?
Bon, alors plusieurs réponses à cette question. En fait, Donald Trump est imprévisible. Donc son imaginaire est très fertile. Alors là, en fait, il y a quand même une réalité économique, hein, faut bien le reconnaître. Les États-Unis, c'est quand même 20% des exportations en France, et pour le champagne, c'est 19%. Alors évidemment, il y a une véritable réalité, hein, ça c'est évident. Mais j'ai envie de dire que, en fait, il reprend ce qui a déjà été fait à plusieurs reprises. Rappelez-vous les années 80 avec Bill Clinton, du temps de François Mitterrand, c'était pareil. Il y avait eu une sorte de taxation aussi vis-à-vis des vins, et pas seulement des vins, également de certains fromages comme le Roquefort. Et là-dessus, José Bové avait d'ailleurs répondu assez fortement à cette taxation. Alors là-dessus aussi, j'ai presque envie de dire que dans les années 80, il y avait eu possibilité de discuter avec l'administration fédérale, et donc finalement, la France en était bien sortie. Là, le souci, c'est que avec Trump qui a lessivé véritablement son administration, eh bien, il n'est pas dit que la France va pouvoir discuter en sous-main ou en dessous de table, comme on peut dire. Mais il y a vraiment une réalité économique, et c'est pas seulement dans le mode imaginaire. Et il faut aussi reconnaître que les exportations françaises qui se portent le mieux en termes de valorisation, c'est-à-dire en volume, en valeur divisée par le volume, eh bien en fait, c'est vraiment le vin qui se porte le mieux. Donc il y a une réalité. Alors imaginaire dans la tête de Trump, oui, peut-être. Bon, en fait, c'est difficile à dire, hein. Trump, personne n'arrive à le sonder, sauf peut-être Poutine. Mais sinon, par rapport à la réalité économique et géopolitique, eh bien oui, effectivement, en tout cas, symbolique aussi, oui, c'est vrai qu'il y a une réalité derrière tout ça.
D'où l'idée d'une rationalité économique. Alors, pour retracer la chronologie des faits, dès le 26 février, Donald Trump déclarait vouloir taxer de 25% les importations françaises. Le 12 mars, ces 25% de droits de douane sont bel et bien appliqués aux importations d'acier et d'aluminium provenant de l'Union européenne. À ce moment-là, l'Union européenne a répliqué et a déclaré vouloir taxer toute une série de produits américains, dont les motos, notamment Harley Davidson et le whisky américain, le fameux Bourbon, à hauteur de 50%. Ce qui est intéressant, David Ménival, c'est que les exportations américaines de whisky dans l'Union européenne représentaient 600 millions d'euros en 2024, tandis que les exportations françaises de champagne vers les États-Unis représentent 810 millions d'euros. Il y a clairement une forme de décalage de poids économique en termes de levier de pression.
Oui, tout à fait. On a vraiment une différence de taille de marché, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que le champagne, historiquement parlant, est en lien assez étroit avec les États-Unis. On sait, hein, par exemple, que dès 1790, hein, les présidents américains consommaient déjà du champagne. Sachez que, historiquement parlant également, l'interprofession champenoise a ouvert son premier bureau international aux États-Unis. Et donc, vraiment, le champagne est très ancré sur ce marché-là, alors que effectivement, du côté des Bourbons, le sujet est bien moindre.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, il y a eu beaucoup de déclarations qui se sont enchaînées, David Ménival. Il est parfois difficile, hein, de suivre l'ensemble de ces déclarations, puis revirements de situation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est très, très concrètement? Il y a eu cette annonce d'un taux à 10%. Aujourd'hui, quand on exporte du champagne vers les États-Unis, quelle taxe s'applique?
Oui, mais c'est toujours ça.
Pour le moment,
même si dans votre histoire vous n'avez pas eu, mais il me semble que c'était il y a 10 jours, d'un seul coup, il était question de 50% sur l'ensemble des produits de l'Union européenne. Donc, ça voulait dire évidemment les vins, vins et spiritueux compris. Puis finalement, encore un énième retour de parole, et donc la prochaine étape, sauf évidemment qu'à contraire, vous l'avez compris, ça serait début juillet, où là on en saura peut-être un peu plus sur les taxes appliquées. Avant cette guerre commerciale, hein, le champagne était taxé autour de 2%.
Oui, donc ce qui représente tout de même une grosse différence à l'exportation. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi mentionné cette menace d'une taxe de 200%. Alors là, on dépasse toute mesure commune. C'était un énorme choc aussi pour les acteurs de cette filière. Cette taxe, elle n'a pas été appliquée, François Le Guy. Et je me permets de rebondir sur les propos que vous teniez à l'instant. Cette idée qu'il était très compliqué de négocier ou de trouver un interlocuteur fiable du côté américain. Pourtant, cette taxe-là, elle n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on sait si les représentants, est-ce qu'il y a une forme de lobby, en tout cas, du vin et des spiritueux, qui est capable d'imposer ou en tout cas de faire comprendre ses intérêts côté américain?
Alors, côté américain, ça, je ne pourrais pas trop le dire, mais il y a encore qu'il y a des importateurs américains qui sont très importants. Vous avez notamment à New York des importateurs qui ont un chiffre d'affaires avec les importations de vin et même de champagne en particulier qui sont relativement importants. Alors, est-ce qu'ils peuvent avoir une possibilité de négocier avec l'administration Trump? Ça, je n'en sais rien. Côté français, à mon avis, le meilleur organisme qui est capable de discuter avec les Américains, avec l'administration Trump, s'ils veulent bien discuter, c'est la FEVS, c'est-à-dire la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. À mon avis, ça, c'est vraiment l'organisme qui maîtrise le mieux tous les circuits économiques, également aussi l'organisation des différentes filières, et qui est capable d'avoir un pouvoir de discussion.
Et ça, c'est extrêmement intéressant, David Ménivel, et ça pose un peu la question clé de cette émission d'entrée de jeu. Au nom de quoi on s'inquiète et on négocie pour le champagne? Est-ce que ce sont au nom des emplois et des emplois locaux a fortiori?
Alors, c'est pas forcément immédiatement l'emploi local. C'est pas tout à fait ça. On s'inquiète d'abord de savoir comment. Imaginons que les taxes sont vraiment conséquentes. Quelles seront les possibilités pour réévaluer l'export? Donc notamment, parce qu'en tout, sur les États-Unis, c'est 27,4 millions de colles qui ont été expédiés en 2024. Donc techniquement parlant, quel sera l'impact sur ces expéditions et comment est-ce que nous pourrons reventiler la baisse d'expédition. C'est d'abord ça, parce que même si les États-Unis c'est un marché majeur, ce n'est pas non plus le seul marché qu'il y a à l'heure actuelle pour le champagne. Hein. Je rappelle, c'est plus de 150 marchés avec 32 marchés qui font plus de 500 000 cols. Donc il y aura toujours une recherche pour essayer de reventiler au moins une partie des pertes à court terme. Donc c'est plutôt ça, et c'est évidemment l'impact que cela peut avoir sur la finance, tout simplement sur les stocks, qui peuvent s'alourdir.
Alors une petite parenthèse, François Le Guy, on sait que plusieurs provinces canadiennes ont interdit aux distributeurs de vendre des alcools américains. On n'a pas forcément observé pareil mouvement en France, par exemple. Est-ce qu'il faut en conclure que la dimension symbolique ne joue pas vraiment, que c'est plutôt le poids économique de cette filière qui joue? Ce sont les acteurs du secteur qui se battent pour le secteur, mais comment interpréter cette absence de front commun, peut-être au moins dans le boycott en ce qui concerne les alcools américains?
Bah écoutez, c'est quand même pas très compliqué. Les Français boivent pas tant que ça de spiritueux ou bien de vin américain, hein, franchement. Alors certes, il y a quand même des opérateurs français, hein, des vignerons, des négociants qui ont investi aux États-Unis. Vous avez par exemple pour la Bourgogne, vous avez Drouin qui a investi, vous avez aussi la Tour. Côté champagne, c'est pareil, Tétinger a investi aussi là-bas. Donc si vous voulez, on va pas se tirer une balle dans le pied. Et puis bon, il y a vraiment pas, c'est vraiment pas la question, quoi. La consommation pour l'essentiel des vins en France ou des spiritueux est plutôt d'origine française. On importe bien des vins et des spiritueux de l'étranger, mais en réalité on n'en boit pas tant que ça, quoi. Sauf peut-être pour le Porto, j'ai envie de dire. Alors là c'est un peu hors sujet, on peut le dire, mais la France est le premier importateur de Porto, mais elle n'est pas du tout le premier importateur pour les vins et les spiritueux d'origine américaine. L'Europe, oui, importe beaucoup. Les États, le Royaume-Uni, par exemple, la Belgique, les Pays-Bas. Bon, là, d'accord, on a un pool d'importateurs qui est relativement important, mais la France, non, pas tant que ça.
Et puis, je l'ai dit en introduction, mais il faut quand même insister sur cette dimension. Il y a certes le champagne, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, mais il n'y a pas que ce produit alcoolisé-là. Mercredi 21 mai dernier, Bernard Arnault était auditionné au Sénat devant la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises. Il a alors mis en garde contre une véritable catastrophe qui menace la filière de l'eau-de-vie et cognac. Alors, il faut savoir que LVMH salarie 9400 personnes au sein de sa division vin et spiritueux, qui comprend le cognac Hennessy, mais aussi le champagne Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Krug et Dom Pérignon. Alors pourquoi, François Le Guy, pourquoi l'inquiétude semble plus vive pour le cognac que pour le champagne?
Ben, le problème, c'est que le champagne, on en boit beaucoup en France et on en exporte aussi et beaucoup. Mais par contre, c'est pas du tout la même chanson pour le cognac. Mmh. Le cognac, on en boit que 5% dans le marché national, c'est trois fois rien. Et donc, le reste, il faut l'exporter. Et il se trouve que ben, les États-Unis, là encore, sont quand même sont assez forts pour importer du cognac. En gros, le cognac, c'est 17% des exportations de vins et spiritueux à l'extérieur. Hein. Et les États-Unis, que je ne dise pas de bêtises, c'est quand même 36%. Donc, si vous voulez, bah, forcément, imaginez que vous avez plus d'un tiers de votre marché qui, tout d'un coup, se dresse face à un mur, comme vous dites, ou à une montée de l'Everest, pour reprendre des propos de François de Bayrou, je ne vois pas trop comment on arriverait à s'en sortir. Ça, oui, ils peuvent vraiment s'inquiéter à Cognac. Ça, je suis bien d'accord avec cette idée-là.
Et puis David Ménival, il faut préciser qu'il y a une autre menace aussi pour le cognac, qui vient de la Chine, qui a fixé au 5 juillet prochain la date butoir pour appliquer de manière définitive des droits de douane compris entre 35 et 39% sur les importations de cognac qui ont été imposées temporairement depuis le mois d'octobre 2024. Le champagne est beaucoup moins concerné par d'éventuelles mesures chinoises. C'est un marché qui, on va dire, où la champagne est beaucoup moins présente.
Oui, tout à fait. Alors cognac, hein, c'est cognac. Si je peux me permettre de revenir
bien
dessus,
sûr.
C'est extrêmement structurel maintenant. C'est-à-dire que vous avez deux marchés majeurs. Hein, ça fait 70% tous les deux. C'est États-Unis et Chine. Malheureusement, effectivement, la Chine en fait était déjà très menaçante en termes de taxes sur cognac. Et avec la situation américaine de l'autre côté, vous vous retrouvez face à un contexte où l'herbe est coupée sous le pied. Hein, c'est-à-dire que n'oubliez surtout pas que cognac avait fait une forte demande d'autorisation de plantation depuis 2017 et que nombre de ces terres et de ces autorisations de plantation vont être mis en activité cette année. Alors que en parallèle, vous avez une division nette hein, de la demande d'alcool pur à cognac. Hein. Donc, on est vraiment dans un contexte qui est bien différent de la Champagne. Effectivement, pour la Champagne, soyons clairs, la Chine n'est pas un marché majeur. C'est pas faute d'essayer, hein, il y a encore de gros travaux à réaliser, mais nous n'avons pas une position forte sur la Chine. Autant on peut avoir une position forte sur Asie du Sud-Est, alors historiquement sur le Japon maintenant, mais aussi l'Asie du Sud-Est avec des marchés émergents, autant la Chine, très clairement, non.
Ce qui est intéressant, David Ménival, c'est qu'on entend là qu'il y a une dimension de temporalité, que finalement, tout est une question aussi de vitesse à laquelle on peut s'adapter à la nouvelle donne. Vous l'avez dit, pour le cognac, il y a une forme de décalage finalement entre leurs attentes et ce qui finit par arriver, notamment vis-à-vis du côté chinois. C'est un peu la même chose aussi du côté de la Champagne. C'est ce que disait Maxime Toubar, le vice-président du Comité national des interprofessions des vins et qui est lui-même producteur de champagne. On vendait 27 millions de bouteilles aux États-Unis. On ne peut pas passer de 27 à 12 millions et se dire que l'on va développer ailleurs. On ne peut pas basculer les volumes d'un pays à l'autre parce qu'il n'y a pas forcément de demande. Les clients japonais ne vont pas se mettre à boire le double de ce qu'ils buvaient auparavant. C'est ça aussi la grande limite aussi peut-être de cette temporalité entre l'avalanche ou la surenchère de taxes du côté des États-Unis et la façon dont peut s'adapter le territoire et les modèles de production français.
Oui, c'est parfaitement vrai. Il est strictement impossible d'imaginer qu'on va réorganiser l'export en un an de temps, comme si de rien n'était, en disant écoutez, c'est pas grave, les États-Unis, on s'en moque, et puis on va voir ailleurs. Non, c'est strictement impossible. Déjà, soyons très clairs. Il faudrait que il existe un réseau de distribution dans les marchés que nous ciblons. C'est-à-dire que est-ce que les marques ou les groupes qui vont être impactés par la taxe de Trump vont avoir la possibilité de réorganiser leur export. Écoutez, s'ils n'ont pas le réseau ou s'ils n'étaient que très peu présents sur d'autres marchés, ça prendra beaucoup plus de temps. Et puis, ça va demander quand même pas mal d'argent. C'est-à-dire qu'il y a de l'investissement à réaliser derrière. Évidemment, ça veut dire un impact sur les marges. Hein. C'est quasiment évident. Donc non, on ne peut pas faire une croix sur le marché américain. Ça reste, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un marché historique. C'est le premier marché export en volumétrie et en valeur. Et d'ailleurs, il était passé en premier en valeur avant la volumétrie. Donc, ça qui montre bien que on réalise quand même pas mal de chiffres d'affaires et de valeur sur ce marché-là. Donc, tout ça fait que, évidemment, qu'on est très mal à l'aise avec cette situation américaine. Même si, on va dire, si ça devait durer, on pourrait imaginer une reventilation des bouteilles sur plusieurs autres marchés, ça se fera pas comme ça. Et puis, soyons très clairs, ça dépendra aussi des acteurs qui seront impactés par cette histoire.
Un petit point pour clarifier les choses, David Ménival, quand vous dites qu'on est premier en valeur avant la volumétrie, comment on l'explique très, très concrètement, comment on explique que la valeur surpasse le volume dans l'absolu?
Alors, dans l'absolu, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a une stratégie de valorisation qui a été enclenchée par la filière champenoise et qui s'est révélée assez fructueuse sur le marché américain. Alors, c'est une stratégie de mix produits, hein, tout simplement. Sachez que, bon, alors, très vite, hein, vous ne vous en faites pas, le champagne, c'est un vin d'assemblage. C'est-à-dire que, en termes de production et de proposition auprès des consommateurs, les vins millésimés ne représentent que 1,2% de la production. Donc, le reste, c'est de l'assemblage, donc plusieurs années, plusieurs cépages, plusieurs villages, et c'est notre réussite. Hein. C'est ce qui fait que le champagne fonctionne et peut garantir des qualités dans le temps. Donc à partir de là, il y a eu une stratégie de valorisation. Voilà, tout simplement, on s'est dit, ok, on sait faire plusieurs types de champagne, on va valoriser davantage des champagnes haut de gamme, donc avec une valorisation plus forte, et puis on va mettre un peu en retrait le champagne dit plus standard, qui dégageait moins de chiffre d'affaires. Et donc ça, on l'a fait en Champagne, on l'a fait, excusez-moi, aux États-Unis, et ça a très bien répondu. C'est-à-dire que le marché américain, avec des capacités de consommation assez importantes, financières, mais aussi avec une population réceptive, nous a accueillis avec ses cuvées haut de gamme, bien valorisées, avec des prix plus importants. Et donc finalement, ce marché américain, dès 2015, devient le premier marché en valeur export. Hein, j'insiste, hein, export.
France Culture.
Il y a des mois qu'on ne vous a pas vu, monsieur Hippolyte.
Vous nous manquiez beaucoup. Où étiez-vous?
J'étais en voyage. À New York. Business.
Entendez-vous l'écho?
Mais trois bouteilles au frais. Et du bon.
Le meilleur.
À l'étranger, ce qui vous manque le plus, c'est le champagne.
Aliette Ovine.
Un extrait du film Belle de jour de Louise Buñuel, sorti en 1967. Alors nous l'avons dit, il y a le champagne, mais pas que, il y a également le cognac. Il faut aussi souligner, François Le Guic, qu'il y a tous les vins dits tranquilles qui sont également concernés. C'est important de le souligner parce que là où le champagne était deux fois plus exporté que le Bordeaux entre 2005 et 2008, cet écart s'est considérablement réduit, ce qui pose une question beaucoup plus fondamentale, c'est de savoir finalement ce qui relève de la conjoncture, alors très atypique et très spécifique à la présidence Trump, et ce qui relève de quelque chose de plus structurel. Pourquoi cet écart s'est-il réduit, François Le Guic? Est-ce que ce sont les vins qui ont réussi à mieux s'exporter ou bien le champagne qui, depuis une petite vingtaine d'années, connaît un moindre succès à l'export?
C'est peut-être bien les deux. C'est-à-dire que... c'est vrai que le Bordeaux comme le Bourgogne ont quand même voulu suivre l'exemple de la Champagne. Ça faut reconnaître hein, que depuis longtemps la Champagne domine le marché des exportations. Et c'est vrai qu'il y a disons une dizaine d'années, même un petit peu plus, la Champagne valait deux fois la Bordeaux et valait quatre fois la Bourgogne. Bon, depuis cet écart s'est resserré. Alors c'est lié aussi au fait que on est dans une période de conjoncture économique qui est défavorable, en gros, depuis 2008-2009. On peut pas dire que ça soit tout à fait florissant. Et d'une manière générale, le champagne, quand même, incarne bien ce qu'on pourrait appeler les produits de luxe et les boissons de luxe. Et donc, au moment où la conjoncture économique est défavorable, eh bien, généralement, c'est le champagne qui trinque en premier, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots.
Un champagne,
et à côté de ça,
David Ménival, oui, va vous souhaiter réagir.
Vous en faites pas, excusez-moi. C'est juste pour préciser, faites attention parce que la Champagne, c'est 300 millions de cols. Donc on n'est pas, ça reste une petite, c'est une petite zone de production. Et je voulais juste confirmer quand même que l'export a vraiment pris le pas en volumétrie et en chiffre d'affaires hein, en Champagne. Alors évidemment, peut-être pas avec les mêmes proportions absolues vis-à-vis des autres vins, mais le champagne, enfin c'est quand même aujourd'hui 57% à l'export et avec un chiffre d'affaires qui est bien supérieur à l'export que par rapport au premier marché qui est la France, où là le sujet du chiffre d'affaires est très important. Donc je voulais juste préciser ça. Alors évidemment les autres ont quand même sérieusement évolué, hein, c'est mais aussi parce que vous aviez des marchés un peu spéculatifs dessus.
François Legouy, nous vous avons interrompu, je m'en excuse, je rappelle que vous êtes tous les deux à distance, si vous souhaitez poursuivre, c'est le moment.
Non, mais bon, c'est comment dire, bon, c'est lié aussi au fait que, bon, il y a, pour la Champagne, il y a plusieurs choses qui interviennent tout à fait en sa faveur. D'abord, c'est un vin effervescent, et c'est vrai que quand on regarde quand même le marché des vins effervescents, c'est un marché qui est toujours en croissance. Donc, ça marche bien. Et puis, c'est vrai qu'il s'agit d'un produit de vraiment de haute qualité, et puis de très grande notoriété. Ça, les Américains raffolent, mais pas seulement les Américains. Et alors que bon pour Bordeaux et pour Bordeaux pour la Bourgogne, c'est bon la proportion des comment dire des vins rouges est bien sûr est relativement importante, et actuellement on est quand même dans une phase où la consommation des vins rouges n'a plus le vent en poupe. Ça s'est passé, je dirais, au début des années 2000. Au début des années 2000, on avait fêté l'arrivée dans le 21e siècle d'une manière tout à fait enthousiaste. Mais et le lendemain, c'est au fond, comment dire, une fois qu'on avait énormément vendu entre 2000 et 2001, eh bien, ça a été un peu un lendemain de gueule de bois où on avait vraiment vendu énormément. Et à partir des années 2005-2006, eh bien, la consommation de vin d'une manière générale et de vin rouge en particulier a commencé sérieusement à baisser. Et ce qui a pris le pas, c'est peu à peu les rosés et les blancs. Et alors, bien entendu, Bordeaux, c'est pas tout à fait sur ce créneau-là que Bordeaux s'est positionné. Mais malgré tout, hein, que ce soit Bordeaux ou Bourgogne, bon, c'est vrai que pour Bordeaux, c'est quand même le plus grand vignoble de qualité qu'on puisse, enfin d'appellation qu'on puisse trouver en France. Alors Bordeaux joue sur cette importance des surfaces et davantage que la Champagne, davantage que la Bourgogne.
On comprend. Donc,
quelque part, on peut dire que pour Bordeaux, c'est le volume aussi qui entre en ligne de compte.
Oui, on comprend.
Alors là-dessus, pour revenir, je continue, je m'excuse.
Allez,
là-dessus, Bordeaux quand même a fait très très fort. Hein. Donc, au moment de la crise de 2008-2009, de la crise des subprimes, là, c'est vraiment les exportations de vin, de champagne qui ont été même rattrapées et dépassées par Bordeaux. Hein. Pas immédiatement, mais assez rapidement. Bon, depuis, l'équilibre est revenu.
Une forme d'équilibre qui est revenue, François Legouy, on le comprend. David Ménival, oui. Pour bien comprendre la situation aussi, et ce qui relève encore une fois du structurel et du conjoncturel, et notamment très lié aux habitudes de consommation. Alors on le disait pour Bordeaux, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a cette inflexion, même si depuis, je reprends les propos de François Legouy, il a fait très fort. Mais pour les autres alcools, la question se pose aussi. Bernard Arnault parlait en janvier dernier, lors de la présentation des résultats annuels de son groupe, d'une normalisation post-Covid de la demande de champagne et de cognac, amorcée en 2023 donc, et qui s'est poursuivie dans un contexte de ralentissement de la consommation et de marché plus difficile en Chine, ça c'est pour le cognac. Alors comment comprendre la situation actuelle? Est-ce qu'on est sur une forme effectivement de normalisation après des années fastes, on va dire, ou vraiment sur une situation inédite, David Ménival?
Oui, alors enfin, je suis désolé, les deux.
Très bien, on est jaloux, c'est très bien.
Voilà. Très clairement, il y a d'abord un retour dit à la normale. Alors c'est pour ça que je mets des guillemets, je suis navré sur la normale parce que c'est quand même bien difficile à définir. Mais de façon plus générale, le champagne avant la crise Covid, hein, donc de 2020, était déjà en train de s'interroger sur la façon dont il était perçu à travers les marchés. Voilà, c'était une interrogation parce que nous avions une légère baisse des volumes expédiés, même si on avait une augmentation significative du chiffre d'affaires. Mais déjà à ce moment-là, cette organisation quand même brillante hein, que le système champenois s'était interrogé, s'était dit oui, va falloir quand même qu'on regarde pourquoi certains consommateurs ne nous suivent plus ou moins en tout cas. Et puis arrive le Covid où on descend quand même à 244 millions de cols. Hein, c'est vraiment, ça a été vraiment une grande peur. Hein, on a tous beaucoup tremblé et on ressort du Covid comme jamais, à 320 millions de cols, 326 millions de cols, donc des chiffres qu'on n'avait pas vécu depuis de nombreuses années. Et donc, finalement, on revient aujourd'hui à une situation, hein, donc à partir de 23, on est redescendu à 299 millions de cols, 2024, vous l'avez dit, 271 millions de cols. Mais finalement, si on regarde sur le long terme, c'est un petit peu retour à la normale, donc on a neutralisé l'excès post-Covid, et on revient dans un contexte où on s'interroge de nouveau, on se dit bon voilà attention c'est pas dramatique mais quand même on a des marchés qui sont matures et qui commencent à donner des signes de bon le champagne très bien mais il existe autre chose et pourquoi pas donc on est dans ce contexte donc c'est pour ça les deux on est dans ce contexte un peu inédit également c'est-à-dire que on est face à un sujet ces marchés qu'on connaît très bien qui ont très bien fonctionné commencent à donner quelques signes d'essoufflement et donc la Champagne doit regarder, et c'est ce qu'elle fait, hein, soyons très clairs, doit regarder sur de nouveaux marchés potentiels. Je répète, il n'y a que 300 millions de cols en moyenne, hein, 300 millions de cols en Champagne et 150 marchés, donc on a encore des possibilités, mais il faut du temps et de l'argent.
On l'a compris, il faut du temps et de l'argent. Vous avez parlé de la spécificité et de la performance aussi de ce fameux système champenois. Alors, comment est-il structuré? Comment a-t-il permis aussi à tous les acteurs de ce marché de traverser un certain nombre de crises à travers l'histoire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et c'est ce qu'expliquait également en janvier 1985 Jean Pierrard, président du comité interprofessionnel du vin de Champagne, au micro de France 3 Grand Est.
La Champagne n'est pas peu fière cette année d'avoir battu son record de 1978, qui avait été établi à la veille de la série de mauvaises récoltes dont on a tant parlé.
Alors, est-ce qu'on est en train de profiter des deux récoltes précédentes qui avaient été exceptionnelles?
Oui, la Champagne a reconstitué ses réserves, ses stocks, et elle est en mesure maintenant de repartir en avant, c'est ce qu'elle fait.
Alors, qui nous a acheté autant de Champagne cette année?
Bien, la France, d'abord, pas qui à la part du Lyon, avec les deux tiers des ventes. Nous avons expédié en France 125 millions de bouteilles, et à l'exportation 63 millions, presque 63 millions de bouteilles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la croissance à l'exportation était presque le double en proportion que celle du marché français. 27% à l'exportation, 14% en France.
Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la profession, dans une sorte d'autodiscipline qu'il faut saluer, n'en a pas profité pour donner un coup de pouce au prix, puisqu'on est pratiquement resté au même prix que l'année précédente.
Les prix sont pratiquement les mêmes depuis deux ans. Avec cette différence que l'éventail des prix s'est un peu desserré, comme il est naturel, quand on vit une situation normale après la pénurie.
Monsieur Pierrard, on a donc vendu beaucoup de champagne l'année dernière. Est-ce à dire que, d'une certaine façon, on a pu taper dans les stocks, si vous me permettez cette formule? Est-ce qu'on a vendu les récoltes des prochaines années?
Non, la récolte 84 a été bonne en quantité et elle équilibre les expéditions de l'année 84. Par conséquent, nous conservons nos forces intactes pour continuer, peut-être raisonnablement, plus raisonnablement, à repartir en avant vers notre objectif, qui est, vous le savez, 200 millions de bouteilles. Je pense qu'il sera atteint en 1985.
Voilà, un message d'espoir en 1985. François Le Gouy, on l'a dit, il y a une forme de dépendance, notamment de la filière champagne, à l'exportation et plus spécifiquement vis-à-vis des États-Unis. Depuis quand une telle dépendance existe-t-elle et comment s'est-elle mise en place historiquement? En fait, dans quelle mesure on peut parler d'une stratégie énoncée comme telle? Est-ce que les choses se sont faites un peu parce qu'il y a eu de la demande et on a suivi? Ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la part des négociants très tôt de vouloir se tourner vers l'international?
Écoutez, les vins français, ce sont, comment dire, les filières, les vignobles se sont constitués à partir de la vente à l'international, et ce, dès la fin du XVIIIe siècle. Et ça s'est encore accentué au cours du XIXe siècle, à partir des années 1850-1860. Et la filière champenoise ou la filière bordelaise, bourguignonne, pour les trois principaux vignobles, si vous voulez, dès le départ, les cuvées les plus prestigieuses, les vins à plus forte notoriété, se sont tout de suite tournés vers l'international. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'international, ça plaît davantage que le marché national. Donc c'est quelque chose qui est déjà un phénomène qui est relativement ancien et qui s'est encore accentué. Et j'ai envie de dire, d'autant plus accentué à partir des années 50-1970, que la consommation nationale a commencé sérieusement à baisser. Alors évidemment, la consommation nationale, à ce moment-là, au début des années 50, en gros, c'était pour l'essentiel du vin de consommation courante, du vin de table, si vous préférez. Maintenant, on appellerait ça du vin, des vins sans IG. Mais on peut vraiment dire que là, cette consommation s'est effondrée. Alors, on a espéré que la création des appellations d'origine contrôlée permettrait de contrebalancer, de rééquilibrer un petit peu la consommation nationale. Il n'en est rien. Et donc, forcément, à partir des années 70-80, il a fallu se tourner majoritairement vers les exportations. Mais en discutant déjà avec des négociants, surtout en Bourgogne, puisque j'ai travaillé au départ essentiellement sur la Bourgogne, j'entendais bien, alors que j'en discutais en gros à la fin des années 90, que déjà la concurrence internationale aussi de la part des pays du Nouveau Monde était de plus en plus importante. Alors évidemment, il a fallu non pas se poser des questions, mais il a fallu, si vous voulez, renforcer ces circuits, ces importateurs, se structurer davantage à l'international. Mais malgré tout, la concurrence internationale, eh bien, taille des croupières depuis, j'ai envie de dire, depuis plus de 50 ans aux exportations françaises. Mais c'est pourtant la question de l'international est quand même une question qui est déjà très ancienne.
Une question très ancienne et qui a, on va dire, repris de la vigueur il y a une cinquantaine d'années. David Ménival, dans quelle mesure le fameux système champenois que vous évoquiez il y a quelques instants a conscience de cette force qu'est la mondialisation pour la filière, mais aussi de cette faiblesse? Si là encore on adopte une perspective historique, dans quelle mesure, en fait, très tôt, il y a eu des mécanismes, il y a eu des filets de sécurité mis en place pour justement pouvoir s'inscrire dans cette mondialisation tout en en limitant les conséquences au niveau de la Champagne?
Oui, en fait, on a un petit peu nagé à contre-courant en Champagne. C'est-à-dire que le marché français, il se développe dans les années 60. C'est-à-dire que concrètement, le positionnement du Champagne, alors je vous refais une petite histoire encore une fois assez rapide, ne vous en faites pas, le Champagne était consommé au dessert. Donc c'était un vin plutôt sucré, on posait ça en fin de repas et les repas étaient parfois très longs et donc on n'avait pas forcément un grand succès en termes d'expédition. C'était assez lent. On va repositionner Champagne à l'apéritif et on va proposer, je répète, un vin d'assemblage. Donc notamment notre fameux Brut sans année, c'est celui qui est le plus produit et proposé encore aujourd'hui. Et ce produit-là, on l'a fait pour la position apéritive. Et la position apéritive, en France, ça a très bien marché. Donc, on a eu des progressions en termes de volumétrie conséquentes, extrêmement conséquentes, avec vraiment le summum en 2007 pour la totalité des expéditions de 339 millions de cols. C'était le record absolu champenois. Et donc, finalement, ce marché français a été une très belle parenthèse entre 1960 et puis, on va dire, jusqu'à 2007. Je vais me permettre de le faire comme ça. Après, on va avoir cette contraction et on va repartir à l'export. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'export fait 90% c'est le champagne, mais c'est des petites volumétries. On a le marché français qui va nous permettre d'arriver à des volumétries très conséquentes grâce à ce développement vin apéritif. Et puis, finalement, à un moment donné, on va se reposer la question de comment est-ce qu'on peut dégager de la valeur de façon significative, et on est reparti à l'export. Voilà, c'est ça d'abord l'histoire. Donc, est-ce que l'organisation a pu répondre à tout ça? Oui, bien sûr, tout à fait. Concrètement, vous avez, alors c'est très important de retenir ça, la Champagne se gère par sa volumétrie, c'est-à-dire que il y a un aval, donc en fait on va expédier les bouteilles, et selon nos besoins, on va contrôler plus ou moins la quantité de raisins collectés afin de contrôler plus ou moins la production de bouteilles réalisées en Champagne. Il y a des règles très strictes, on connaît très bien la règle, donc on sait qu'en fonction du nombre de kilos hectares collectés, on saura combien de bouteilles on fabrique. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant, parce qu'il s'organise, et même si la vigne parfois annonce des quantités supérieures, et bien dans ces cas-là, on va en mettre de côté pour les situations difficiles.
On le comprend, c'est une modalité de gestion des stocks qui permet aussi de voir venir les crises, ou en tout cas, si ce n'est de les anticiper, au moins de les amortir une fois qu'elles sont venues. Alors face aux tensions internationales que l'on connaît actuellement et qui ne sont pas si nouvelles que cela, on l'a dit au cours de cette émission, pour une filière très exposée, puisqu'elle a bâti aussi son modèle économique sur les exportations, quel filet de sécurité existe? La menace pourrait-elle venir de la concurrence que se livrent les acteurs à l'intérieur même de ce marché? Et comment le champagne français entend-il se défendre? Et qui va subir les conséquences d'une telle situation et en payer le prix? On en parle dans quelques instants.
Blue champagne, purple shadows and blue champagne, with the echoes that still remain, I keep a blue rendezvous. Bubbles rise like a fountain before my eyes, and they suddenly crystallize to form a vision of you. All the plans we started, all the songs we sang, each little dream we knew seems to overtake me like a boomerang. Blue is the sparkle, gone is the tang. Each old refrain keeps returning as I remain with my memories and the blue champagne to toast the dream that was you.
La bataille du Champagne est l'une des plus vieilles batailles que se livrent les connaisseurs. Champagne français contre champagne californien. Le champagne français le plus cher, 150 francs environ la bouteille. Le champagne californien moins cher, moins apprécié malgré les énormes progrès réalisés par les vignerons de la côte ouest. À New York, ce seul magasin vend 600 bouteilles de champagne par mois.
Véronique, un client rentre dans votre magasin et achète du champagne. Il prend du champagne américain ou du champagne français ?
Il prend du champagne français.
Pour quelle raison ?
Puisqu'il considère le champagne français supérieur à celui américain concernant la qualité, la tradition, choses comme ça.
En Europe, ne peut être appelé champagne, ne peut être étiqueté champagne que les vins qui sont produits dans la région champenoise, à savoir que les Allemands appellent leur mousse secte, les Italiens l'appellent asti spumante, etc. etc.
Ici, on l'appelle champagne.
Ici, on l'appelle champagne, tout à fait.
C'est embêtant pour vous, ça, hein ?
C'est embêtant, mais c'est également totalement intéressant de... C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici.
Il n'y a qu'un champagne, c'est le champagne de France. Le reste, c'est du mousseux.
C'est-à-dire, quelle différence faites-vous entre le mousseux et le champagne ?
L'appellation.
Le champagne américain ne sera jamais un sérieux concurrent du champagne français. Jamais.
Une archive de 1987 qui explique bien toute l'importance de l'image de marque du champagne, mais aussi de son appellation. Et justement, c'est sur tout au long des territoires champenois que nous nous promenons aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Vous entendiez également Blue Champagne de la chanteuse américaine Anita O'Day sur France Culture. Et nous sommes toujours en compagnie du géographe François Le Gouy, professeur émérite à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et de David Ménival, directeur de la filière champagne au Crédit Agricole Nord-Est. Alors François Le Gouy, ce qu'on entendait là, c'est toute l'importance de l'appellation d'origine contrôlée qui est créée en 1935. Dès le départ, quasiment, le champagne en bénéficie. Dans quelle mesure il faut faire la part des choses, François Le Gouy ? Est-ce que c'est une assurance pour le consommateur d'avoir un produit de qualité, mais aussi une assurance pour les vendeurs que de faire reconnaître et respecter son produit, notamment sur les étals étrangers ?
Vous posez la question de l'appellation d'origine contrôlée. Et à la base, il s'agit bien d'un contrôle. Et un contrôle qui a été laissé à la faveur des ODG, c'est-à-dire des syndicats viticoles. Donc, a été laissé sous la responsabilité des syndicats viticoles, des interprofessions aussi, quelque part. Bien, c'est quand même une garantie, parce que c'est bien ça qui est recherché, d'une qualité, pas forcément irréprochable, mais en tout cas, une qualité tout à fait convenable, hein, et même parfaite. Bon. Là-dessus, se pose aussi la question de la concurrence déloyale, parce que désormais, depuis en gros 2006-2009, eh bien, ces appellations d'origine contrôlée sont devenues des appellations d'origine protégée. Et c'est l'Union européenne qui protège. Alors, tout ce que vous avez passé là comme archive est très intéressant, parce que effectivement, les champagnes d'origine étrangère sont relativement importants, et enfin ont été relativement importants, peut-être sous l'effet de la clause du grand-père, c'est-à-dire que autrefois aux États-Unis on fabriquait du champagne parce que le grand-père lui-même avait appelé ça du champagne, bon, et parce que aussi il y avait une certaine tradition de fabriquer des mousseux qu'on appelait volontiers champagne. Et d'un point de vue juridique, la France laissait faire, mais enfin avec difficulté. Et depuis, normalement, il y a eu des accords qui ont été réalisés entre la France et les États-Unis. Normalement, on ne devrait plus fabriquer de champagne aux États-Unis, même si en 2014, j'ai retrouvé encore dans des wineries en Californie du mousseux appelé champagne. Mais enfin, ça, c'est juste anecdotique. Par contre, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est que donc il y a un respect juridique international qui s'est imposé en quelque sorte. Ce qui est plus embêtant, c'est le cas russe, puisque Vladimir Poutine a décrété que le vrai, l'authentique champagne, eh bien, était celui qui était.
Ah, François Legouis, je crois qu'on vient de vous perdre. Je rappelle que vous êtes avec nous à distance, mais ce qui me permet de vous passer la parole, David Ménival. C'est intéressant, on a identifié deux mécanismes, à la fois celui de la gestion des stocks, on en parlait juste avant notre pause musicale, également ce respect de l'appellation, alors qu'elle soit contrôlée puis protégée. Tout cela est chapeauté, on va dire. Il y a une forme de régulation aussi qui est inhérente à ce fameux système champenois. C'est le rôle du comité interprofessionnel du vin et champagne qui est créé en 1941. Comment fédère-t-il finalement, comment gère-t-il l'intégralité de ces filets de sécurité? Est-ce là son rôle finalement de se préoccuper des garanties qui existent pour l'ensemble de la filière?
Oui, alors c'est d'abord et avant tout un outil extrêmement puissant pour protéger le nom champagne. Donc évidemment l'appellation d'origine protégée. Vous avez un comité interprofessionnel des vins de champagne qui est extrêmement puissant, extrêmement attentif, à une très belle veille. Et donc dès que vous avez n'importe quel produit qui s'amuse à utiliser le mot champagne alors qu'il n'en a absolument pas le droit, vous avez clairement une action en justice qui est menée. Alors sur le marché américain, pour revenir dessus, c'est une particularité parce qu'il y a effectivement eu des accords avec les États-Unis, mais à partir du moment où il y avait donc la clause du grand-père, donc c'est l'antériorité, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il était, il est encore possible de trouver du champagne de Californie pour tous ceux qui faisaient du champagne, je crois, avant 1986, aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on peut encore retrouver, même si ça commence à être un peu rare, on peut toujours retrouver des Californian champagne en Californie. Voilà, même si aujourd'hui c'est encore une fois très rare. Mais ça, souvent, c'est parce que c'était des productions antérieures à l'accord avec les États-Unis. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que tout ce qui s'est fait après cet accord, je peux vous l'assurer, le CIVC, donc le Comité interprofessionnel des vins de champagne, est extrêmement puissant et très attentif. Donc toute personne qui s'amuserait à utiliser le mot champagne à partir de là se retrouverait devant les tribunaux.
Alors nous l'avons dit depuis le mois d'avril, le champagne français qui arrive sur le sol américain est taxé à hauteur de 10%, auparavant c'était 2%. Rémi Gratio, viticulteur de champagne dans l'Aisne, explique les conséquences de ces tensions dans un reportage diffusé le 5 mars 2025 sur France 3 Région Hauts-de-France.
Le travail est fait, les Américains aiment le champagne, donc si à un moment le champagne n'est plus présent, voilà, on a un président qui va être là 4 ans, faut pas qu'on soit absent pendant 4 ans, quoi. Donc c'est important de ne pas avoir cette taxe. Ou pas cette importance en tout cas.
25% c'est énorme, ça va être compliqué pour nous de prendre une partie de la taxe. On va voir comment l'importateur lui va réagir, comment il va répercuter cette taxe et comment elle va être répercutée entre les différents intermédiaires. Quand on compare par rapport à la France, c'est pas du tout la même clientèle, c'est une clientèle quand même aisée, qui a les moyens. Est-ce qu'ils vont accepter de payer plus cher? Je ne sais pas. Là, est-ce que on peut se permettre en Champagne d'avoir encore cette augmentation? Aujourd'hui, je n'ai pas cette réponse-là. On vendra des bouteilles. Je suis sûr qu'on vendra des bouteilles. Il y aura sûrement un impact si on a cette taxe de 25%.
Alors, quelles conséquences de cette situation exceptionnelle pour les acteurs et les actrices des maisons champenoises, mais du secteur de la filière champenoise dans son intégralité? Il faut bien distinguer là, David de Ménival, plusieurs acteurs, justement. On a vu des grandes maisons, alors des plus ou moins grandes maisons, on va dire, effectivement, avoir cette stratégie d'envoyer des provisions, d'envoyer des stocks aux États-Unis. On parle de 7 mois de provisions envoyées récemment par la maison Boiselle, qui est située à Épernay, 9 mois pour la maison Ayala, qui est implantée dans le village d'Aï. Est-ce que David Ménival, cette stratégie-là, que d'envoyer le maximum possible avant que des taxes plus importantes adviennent, est un privilège, on va dire, réservé à ces grandes maisons? Est-ce qu'il n'y a qu'elles qui arrivent justement à avoir ce stock et avoir les moyens aussi de les envoyer jusqu'aux États-Unis?
Alors, je dirais mécaniquement, la réponse est oui, étant donné que ces grandes maisons, le monde du négoce, de façon générale, c'est 86% des expéditions aux États-Unis. Donc, je dirais que c'est les principaux concernés, évidemment. Donc, il y a une anticipation, une réelle anticipation. Alors, faites attention, parce que cette anticipation, elle est des deux côtés. Vous avez les importateurs, distributeurs américains qui ont envoyé des messages en disant, écoutez les amis, là, dépêchez-vous, parce qu'on ne sait pas comment Champagne va être taxé. Donc, allez-y, envoyez, on verra ce qui se passe après. Et de l'autre côté, vous avez les champenois qui disent, bon, bah là, c'est l'opportunité, c'est maintenant, il faut y aller. Et donc, comme je le disais, c'est quand même majoritairement les grandes maisons qui font l'immense majorité des expéditions aux États-Unis. Donc, automatiquement, c'est d'abord elles qui sont concernées. Ensuite, vous avez, dans une moindre mesure, et vraiment une moindre mesure en termes de volumétrie, les vignerons et les coopératives qui sont également présentes, mais qui vraiment sont vraiment en retrait en termes de volumétrie, et donc sont potentiellement moins concernés par ce mouvement. Donc oui, il y a un mouvement qui est réel. La question est la plus importante, je vais me permettre, c'est une fois qu'on nous aurons chargé les stocks de nos importateurs distributeurs américains, est-ce que eux auront cette capacité de liquider, les écouler vers le consommateur américain, qui, rappelons-le, et c'est ce qui m'inquiète le plus pour être franc, lui-même est en train de subir le contre-coup de cette guerre commerciale, et avec des situations qui se tendent, une inflation qui peut revenir et une incertitude qui n'est pas en leur faveur non plus, et ils sont plutôt inquiets. Et je vais c'est plutôt là le sujet, c'est-à-dire que très bien, on est en train d'anticiper, on en a envoyé pas mal, maintenant va falloir quand même que le consommateur américain suive ces mouvements.
Et on comprend bien ce qui fait la force du champagne, à savoir être un produit de luxe relativement accessible, mais un produit de luxe fait aussi sa faiblesse, n'est peut-être pas la dépense que l'on privilégie dans un contexte, comme vous le disiez, d'inflation et en tout cas de restrictions budgétaires des ménages. Donc effectivement, l'inquiétude se situe là. On a le trio qui est posé. On a les vignerons, les coopératives et les maisons dans ce territoire champenois. François Le Guy, il faut là bien nous expliquer le mode de fonctionnement. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait indiqué Bernard Arnault en ce qui concerne le cognac en Charente. Nous achetons de l'eau de vie à des petits producteurs, et si la demande s'arrête, nous serons dans l'obligation d'arrêter d'acheter. Est-ce que c'est cela la vraie menace? Ce sont les vignerons champenois qui détiennent 80% du vignoble aujourd'hui qui sont menacés par cette contraction de la demande via les maisons qui leur achètent leurs raisins.
Écoutez, en bonne logique, oui, absolument. Hein. Les vignerons exportent, mais en très faible quantité, hein, de façon que ce soit pour la Champagne ou d'autres vignobles. Hein, c'est d'une manière générale, le négoce, c'est entre 80-85%, enfin même entre 78 et 85% des exportations internationales. Donc évidemment que, et là c'est pas seulement les vignerons de Champagne qui sont concernés, hein, pour tous les autres vignobles, mais en l'occurrence, si les maisons de négoce n'achètent plus, bah évidemment que les petits vignerons, enfin que même les vignerons champenois vont également souffrir, et d'autant plus que il reste encore beaucoup de vignerons en Champagne, hein, la surface moyenne des exploitations en Champagne est très petite.
Très réduite, hein.
Ouais. Donc forcément, il va y avoir des impacts très importants à ce niveau-là.
David Ménival, je voudrais qu'on revienne sur la façon dont est déterminé finalement le prix d'une grappe de raisin. C'est important pour essayer de comprendre aussi quel mécanisme existe pour protéger justement ces vignerons. Il y a des contrats tout de même qui sont passés entre les maisons et les vignerons. Dans quelle mesure ces contrats-là sont une mesure de protection, et qui fixe ce fameux prix?
Voilà. Alors, le prix est librement consenti. Vous faites très attention à ça, parce que autrement c'est anticoncurrentiel et c'est strictement interdit. Par contre, il y a effectivement des contrats cadres interprofessionnels pluriannuels. Ça veut dire que il y a un engagement. Alors, soit en termes de surface, soit en termes de quantité de raisins. qui sont signés entre les acheteurs et les vendeurs de matières premières, donc souvent entre négociants et vignobles. Donc on est dans ce contexte-là. D'abord, le prix du kilo de raisin, lui, est librement consenti entre les parties, même si il y a des influences en fonction des endroits où nous produisons. C'est-à-dire que l'histoire de la Champagne entre les grands crus, les premiers crus et le reste a une influence sur le prix pratiqué. Mais, je répète, il est librement consenti entre les parties. Ce qui est une sécurité vraiment réelle pour la Champagne, c'est ce contrat interprofessionnel pluriannuel qui leur permet quand même d'assurer un débouché d'un côté et une quantité de matière de l'autre. Hein, parce que n'oubliez surtout pas, hein, certes, effectivement, les maisons, les négociants font la majorité des expéditions, mais ils ont besoin du raisin produit notamment par le vignoble, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, pour pouvoir remplir leur la quantité de bouteilles à produire. Et la Champagne, entre la vendange et les ventes, ben, il y a 4 ans. Donc, on ne peut pas non plus faire une croix dessus.
Là, encore une fois, la question de la temporalité se pose. David Ménivel, on a parlé de la possibilité d'envoyer un très grand nombre de cargaisons, enfin de stocks de bouteilles, de colles de champagne aux États-Unis. D'autres stratégies, enfin, en tout cas d'autres solutions ont été mises sur la table. Il y a tout simplement l'idée de sacrifier des marges, ou bien, et c'est ce qui a été fait dans le cas de Moët-Hennessy, de réduire sa masse salariale. Hein, le PDG de Moët-Hennessy, Jean-Jacques Guillony, a annoncé un plan de 1200 suppressions de postes, soit 12% des effectifs de la filiale. Est-ce que c'est cela, finalement, est-ce que c'est la solution qui va être mise sur la table, sachant que c'est tout de même une grande maison dont on parle là?
Oui, mais c'est pas une suppression. Ils l'ont confirmé.
Bernard Arnault l'a confirmé pendant son audition au Sénat.
Et c'est-à-dire qu'en fait, il a d'abord signalé que c'était des départs sans renouvellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en licenciement sec sur cette situation-là. Donc, c'est plutôt une réduction de la masse salariale par départ anticipé et non renouvellement. C'est d'abord ça. La Champagne est évidemment concernée par ce mouvement-là, dans une moindre mesure, parce que c'est quand même Cognac qui est principalement concerné par ce sujet, pour les raisons qu'on a évoquées. Hein, structurellement parlant, Cognac, à mon avis, est rentré dans une situation bien plus compliquée, extrêmement compliquée, que ce que ne peut l'être le Champagne à l'heure actuelle. Donc on est évidemment attentif, mais on n'en est pas au licenciement sec dans les maisons de champagne. On est plutôt dans un arrêt des embauches ou renouvellement de départ en retraite.
François Le Gouy, pour qu'on comprenne bien la situation également, je voudrais vous citer les propos de Christine Sevillano, hein, qui est présidente des vignerons indépendants de Champagne. C'est un syndicat. Elle dit qu'avec la spéculation des prix sur le raisin, il est plus simple et plus rentable de vendre sa récolte aux maisons. Résultat, en 10 ans, nous sommes passés de 1900 à 1400 vignerons manipulants, c'est-à-dire qui produisent leur champagne de A à Z. Est-ce que c'est un phénomène de concentration qu'il faut effectivement craindre en ce qui concerne la région champenoise?
Écoutez, comme dans tous les vignobles, hein, faut pas rêver. Hein. Là, en l'occurrence, la Champagne ne va pas échapper à un phénomène de concentration qui touche absolument tous les vignobles. Regardez la disparition des vignerons que l'on retrouve dans partout en France et même dans les pays européens. Ça, la Champagne ne va pas y couper, c'est évident. Bon, maintenant, j'ai envie de dire que, ceux qui vont rester, ce sont les vignerons qui sauront le mieux s'en sortir. Ce sont aussi les vignerons qui arriveront à maîtriser les circuits de commercialisation, et pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais quand même signaler que en 2019, j'ai assisté à un colloque à Reims, et nous avons après eu toute une discussion, une sorte de forum avec des vignerons indépendants, et ils nous ont même fait déguster des vins de champagne qui n'étaient plus tellement des vins de champagne de marque, mais des vins de terroir. Alors là, il y a une piste que j'ai trouvée particulièrement intéressante, même si au début ça me faisait un petit peu sourire. On nous vantait les mérites de tel champagne qui provenait d'un terrain calcaire, argileux, siliceux, crayeux, marneux, et à chaque fois on nous disait il y a tel ou tel goût. Et en fait, au moment de la dégustation, effectivement, tout ce qu'on nous avait annoncé, c'était tout à fait révélé vrai. Donc là, si les vignerons veulent n'ont pas forcément se rendre complètement indépendants des négociants, ça paraît difficile. Ils ont quand même quelques pistes à suivre en essayant de produire des champagnes de terroir, mais je ne sais pas, là j'avoue que j'ai pas trop suivi ça depuis, s'ils arrivent à bien en vivre et s'ils arrivent aussi à l'exporter.
David Ménivel, sur cette question des champagnes de terroir, pour conclure cette émission.
Oui, tout à fait. Ils existent. Il y en a c'est une petite partie, mais effectivement, ils fonctionnent bien et ils exportent. Hein, ils exportent beaucoup sur cette stratégie, dit de vin de champagne, avec une capacité à exprimer le terroir, la parcelle, le cépage, de façon très atypique, et ça fonctionne. Donc c'est pas un gros volume, c'est pas un nombre absolument incroyable, mais c'est quand même fonctionnel.
Et c'est peut-être une piste pour l'avenir. En tout cas, un grand merci à tous les deux, François Le Gouy et David Ménivel, d'avoir participé à cette émission.